Bonjour à toutes et à tous, il est midi 16, vous écoutez Radio BLV, bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Aujourd'hui, c'est Agathe et Karina qui vous accueillent. Bonjour Karina.
Bonjour Agathe, comment tu vas?
Ça va.
En forme?
Non.
Non. Ça va aller, ça va bien se passer.
Alors Karina, au sommaire de cette locale du mardi 7 juin, de quoi allons-nous parler?
On a une locale très très remplie aujourd'hui. Alors je sais, vous ne nous voyez pas, c'est dommage, mais le studio est rempli à ras-bord de gens et ça fait plaisir. On va commencer par faire un petit point sur le refuge Saint-Roch à Valence avec Pierre-Henri qui vient de temps en temps nous voir pour nous parler de ce bel endroit. Et on aura aussi Anaëlle et Fabienne et Marius et Antoine, des élèves de l'école Mendès France, pour parler d'un projet de livre avec le refuge. Bonjour à vous tous et toutes.
Bonjour.
Ces petites voix. Et ensuite, il y aura Ciliane, Anza et Fiona des Vertébrés qui vont nous parler des ateliers qui sont organisés le 11 juin dans le cadre du festival Dehors, enfin, de sa préparation. Et pour terminer l'émission, on aura Mylène, Hervé et Jonelle du Culture Café qui a ouvert il y a maintenant un mois environ, qui viendront donc le présenter et puis nous annoncer la programmation à venir pour les beaux jours.
Et comme d'habitude, des infos et des brèves locales.
Et comme promis, on commence donc avec Pierre-Henri pour faire un petit point autour du refuge. Bonjour Pierre-Henri.
Bonjour Karina.
Comment ça va au refuge?
Bah écoutez, on se maintient, c'est compliqué, c'est une année très difficile. Je pense que je peux parler au nom de toutes les associations et tous les refuges actuels en France, on est tous complets.
Tous complets,
que ce soit des chats, des chiens. C'est compliqué. En plus, on a beaucoup d'abandon. Là, c'est une année riche en abandon, on va dire. Et en plus de ça, il y a souvent des animaux qui sont malades, qui arrivent dans des conditions compliquées, des conditions sanitaires compliquées. Et de ce fait, ben, c'est difficile pour les associations en ce moment.
Et habituellement, c'est comment? C'est parce que là, tu dis que c'est complet en termes de place habituellement.
On a toujours un petit peu de place. Là, actuellement, on a ouvert nos parcs de promenade pour en faire des lieux de résidence pour les animaux parce qu'on n'a plus de place. Ouais. On a beaucoup d'animaux qui ne sont pas sociabilisés par le problème sanitaire qu'on a eu il n'y a pas très longtemps où les gens ont adopté un petit peu de partout, n'ont pas sociabilisé leurs chiens. Bah, de ce fait, nos pensionnaires sont compliqués. Et donc, on a élargi notre pouvoir d'accueil, notre capacité d'accueil avec justement les parcs de détente. Mais ça ne suffit pas, puisque c'est vraiment des chiens qui ont besoin de travail, d'être éduqués. Et ça nous prend beaucoup de temps pour pouvoir les proposer à l'adoption.
Et vous, pour avoir une idée, il y a combien d'animaux en ce moment chez vous?
Alors, on a plus de 80 chiens, on en a une dizaine en famille d'accueil. Pour les chats, on est à peu près dans les mêmes quantités, puisque nous, on est un refuge moyen, on n'est pas un grand refuge, donc notre capacité est limitée. Et on a aussi beaucoup de nacs avec des arrivées de lapins, notamment bientôt. On a une grosse arrivée de lapins, mais on a aussi des souris, on a aussi des hamsters, un chinchilla, enfin... C'est très varié.
Tu dis famille d'accueil parce qu'on peut se proposer famille d'accueil pour accueillir pendant un certain temps les animaux de la SPA, c'est ça?
Oui, enfin, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on demande avant tout aux familles d'accueil d'adhérer à l'association pour pouvoir être sûr que les gens savent bien s'occuper de l'animal. Une famille d'accueil, c'est souvent accueillir un animal qui aura des problèmes soit de santé, soit de comportement. Mais c'est essentiellement des vieux animaux. En règle générale, on essaye de sortir nos seniors du refuge pour leur permettre d'avoir un accueil plus confortable dans une famille. Maintenant, il faut vraiment prendre en compte que c'est pas un coup de tête, c'est vraiment quelque chose de très réfléchi parce que ces animaux ont des vrais besoins. ont des vraies pathologies. Et il faut le prendre en compte avant de les accueillir.
C'est un réel engagement.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, en France, c'est partout le même constat chez les associations de protection des animaux. Qu'est-ce que...
Eh bien, je pense qu'on a basculé à un moment donné dans des adoptions compulsives qui sont liées peut-être à la situation du Covid. De toute façon, on sait qu'on en a à peu près pour 4-5 ans à gérer cette situation. Donc, beaucoup d'animaux sont nés déjà. Les associations n'ont pas pu faire leur travail de stérilisation, notamment pour les chats. Donc, beaucoup d'animaux sont nés dans la rue, ont été donnés sur différents réseaux sociaux gratuitement. Et à un moment donné, quand il s'agit de chiens, on va dire, de caractère, notamment, c'est de la très grande mode des Malinois. Ça, c'est un effet de mode national. Ce sont des chiens qui ont besoin d'éducation. Et c'est vrai, quand ils sont pris dans des familles et élevés sans éducation, sans cadre, juste comme ça, parce que c'est un joli chien et un peu ostentatoire, automatiquement, le chien, à un moment donné, va prendre le pouvoir. Et là, les gens ne peuvent plus gérer, notamment avec les enfants.
Et qu'est-ce que peuvent faire les gens qui nous écoutent, nos auditeurs, auditrices? Est-ce que tu aurais un message pour ces personnes?
Alors, réfléchissez avant d'adopter, réfléchissez avant de récupérer un animal. Quand on trouve des chatons dans la rue, on surveille quand même qu'il n'y ait pas la maman à côté, parce qu'on nous amène énormément de chatons qui ont encore les yeux fermés. Et forcément, la mère était à côté, mais on a récupéré les chatons dans des buissons. Donc, réfléchissez avant d'avoir une action par rapport à ces animaux. Et puis, si les bonnes questions ont été posées, si vous avez pris le temps d'anticiper les besoins, est-ce que ça allait changer dans votre vie pour accueillir un animal? Dans ce cas-là, venez nous rencontrer.
Est-ce que vous avez besoin aussi d'argent ou de bénévoles, ou j'imagine quand
des deux. On a besoin d'argent parce que, comme je le disais tout à l'heure, les animaux qui rentrent au sein de l'association sont de plus en plus malades. En fait, on a beaucoup de problèmes de peau, on a beaucoup de problèmes liés à des mauvaises conditions de détention, on a beaucoup de réquisitions, de maltraitance ou des chiens qu'on récupère.
Ah oui, ça aussi, ça a augmenté.
Ça a augmenté. Alors, je pense pas que ça a augmenté, c'est plus dénoncé.
D'accord.
En fait. Et donc, on a besoin d'argent pour les frais vétérinaires qui sont des partenaires avec nous, mais qui, malgré tout, coûtent à une association. On a besoin de bénévoles, de bras. Plus on est nombreux, plus on peut sortir les animaux, plus on peut sociabiliser les chats, plus on peut s'occuper des petits lapins et des souris. Voilà. Plus on est nombreux, plus l'action est menée dans de bonnes conditions pour les animaux.
Merci beaucoup pour ce point au refuge Saint-Roch de Valence. Et donc, tu n'es pas venue seule aujourd'hui,
non. Tu
es venue accompagnée. Donc, on a Fabienne, on a Marius, Antoine et, pardon, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom.
Anaël,
très beau prénom. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme projet autour du refuge Saint-Roch?
On a écrit un livre.
Ah, c'est quoi comme livre, alors?
Un livre avec des animaux, deux cochons d'Inde, Boris et Maurice.
Et ça raconte quoi comme histoire?
En fait, on a fait plusieurs histoires, donc c'est un peu compliqué de toutes les raconter. Mais...
Est-ce que tu as un exemple peut-être, mais en quelques mots, pour donner une idée aux personnes qui nous écoutent?
Pas trop, non.
Bon, il faut qu'ils lisent le livre alors.
Donc on va vous faire un petit historique vite fait.
Ouais.
En gros, donc moi je m'appelle Anaël Assier, je suis l'auteur des Petites et Grandes Questions de Boris et Maurice, paru aux éditions Larousse en 2019, je crois. Et c'est l'histoire vraie de mes deux cochons d'Inde, deux petites bêtes qui ont été sauvées in extremis d'une fin prématurée. Et c'est ils mettent en scène des contes traditionnels. Voilà, il y a une version audio. Avec le plus grand clarinettiste français qui fait un des thèmes. Et enfin, il y a un beau casting sur le CD. Et en fait, ce livre, une des maîtresses de l'école de Beaumont-les-Valence l'a découvert, en gros, via l'intermédiaire de l'association Fréquence Lire. Et elle m'a invité à venir parler en tant qu'auteur dans l'école. Et puis, on a sympathisé, parce que l'école est quand même vachement sympa. Et ensuite, vas-y, Fabienne, raconte.
Donc du coup, l'année scolaire dernière, Annaëlle est venue dans toutes les classes. Et dans toutes les classes auparavant, on avait lu son ouvrage. Et ensuite, il est venu répondre aux questions des enfants sur qu'est-ce qu'être écrivain et aussi sur les questions qui portaient sur les histoires de Boris et Maurice. Et en parallèle, dans notre école, tous les ans, on fait un projet solidaire. Donc les enfants choisissent un thème à défendre. Voilà. Et après, on met en place des actions pour rapporter de l'argent au bénéfice d'une association. Donc, comme on a sympathisé, l'équipe enseignante et Annaëlle, on a décidé que cette année, le projet solidaire, ça serait d'écrire un livre qu'on vendrait au profit d'une association. Et il se trouve que l'an dernier, les enfants ont voté pour travailler avec une association s'occupant d'animaux. Voilà la raison pour laquelle on a pris contact avec le Refuge Saint-Roch.
Et comment ça s'est passé ensuite à partir de là?
Vous voulez expliquer pour écrire
comment ça s'est passé? Oui, je veux bien. D'abord, on écrivait sur un cahier nos idées. Ensuite, on les mettait en commun et on essayait d'écrire un morceau de l'histoire avec toutes les idées qu'on avait eues.
Génial.
Oui, alors, toutes les étapes ont été... Le but, c'était que chaque classe écrive vraiment une histoire.
D'accord.
Et qu'on arrive vraiment à la fin à faire un vrai livre. Et que les enfants découvrent toutes les étapes de la chaîne du livre. De l'écriture à la relecture, jusqu'à la recherche dans l'imprimeur, jusqu'à l'impression, puis ensuite la vente, et ensuite la médiatisation du produit, etc. Je voulais vraiment leur montrer l'ensemble de la chaîne éditoriale. À chaque étape, en gros... je tenais aussi à ce que ce soit vraiment démocratique. Donc, toute décision de chaque histoire, chaque personnage a été sélectionné selon le souhait de chacun et ensuite un vote. Donc, toutes les étapes ont été votées par les enfants. Et donc, en gros, ils connaissaient parfaitement le premier tome, le tome 1, grâce au travail de l'équipe enseignante. Vraiment, chaque enfant s'était approprié l'univers de Boris et Maurice. Et donc, ils ont pu très facilement faire évoluer les personnages.
Et donc, les histoires que les enfants ont écrites concernent aussi Boris et Maurice.
Ah oui,
ça continue.
C'est-à-dire que j'avais fait des petites cartes représentant tous les personnages du tome 1 sur un village. C'est un village d'animaux, quoi. Et puis, le plus jeune tirait une carte et le plus âgé tirait une carte aussi. Et c'était les deux personnages principaux. Ensuite, on faisait le choix du thème. Chacun devait dire le sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Donc, soit c'était l'injustice, l'amour, les bisous, la mort, des choses comme ça. Et puis ensuite, on faisait un vote. Et donc, à la fin, on se retrouvait avec un thème défini, deux personnages principaux. Et vu qu'ils connaissaient bien la psychologie des personnages, on devait développer les interactions et le tout dans un univers qu'ils connaissaient parfaitement. Ce qui a donné vraiment de très belles histoires, quoi.
Et comment ça s'est passé pour vous d'écrire des histoires? C'était comment?
À toi.
C'était dur à la fois parce que des fois on se bloquait, il y avait des pages blanches, on ne savait plus quoi faire. Et des fois on avait plein d'idées et on ne savait pas quoi mettre.
Et qu'est-ce que tu as appris en faisant ces ateliers, ces moments d'écriture?
Que c'est dur et qu'il faut avoir des bonnes idées et qu'il faut se relire parce que c'est le travail le plus dur.
Puis j'imagine que ça travaille votre imagination ou vous avez dû essayer d'être créatif, d'imaginer plein de choses?
Oui.
Les idées, la profusion des idées, c'était pas le problème. C'était là vraiment, ils en manquaient pas. Le tout, c'était de réussir à faire en sorte que toutes les idées soient intégrées, quoi, qu'il y ait personne qui passe à la trappe. Et c'était intéressant aussi à ce niveau-là parce qu'ils devaient défendre leurs idées, quoi.
Et aujourd'hui, ce livre, est-ce qu'on peut le lire?
Dépêchez-vous parce qu'il en reste plus beaucoup. Mais il y en a entre autres au Refuge Saint-Roch. Donc quand vous venez adopter un animal selon les préconisations de Pierre-Henri, vous pouvez en plus obtenir un Boris et Maurice retournent à l'école. Donc c'est le titre du livre. C'est imprimé sur encre végétale, donc déjà c'est pas mal. C'est du papier respectueux de l'environnement, nanana. Et puis sur le prix de vente à 12 euros, en fait il y a 8 euros reversés au refuge. C'est vraiment une affaire Enfin, faut pas hésiter, quoi. Surtout que c'est une série limitée et que moi, je veux bien éventuellement les dédicacer si vraiment vous voulez ensuite pouvoir leur vendre sur Amazon.
Ah oui, pour
avec une plus-value.
Pour faire un investissement sur l'avenir.
Ah, on sait jamais. Hein.
Donc, je voudrais juste préciser que les enfants de l'école, ils vendent le livre sur le marché de Beaumont-les-Valences.
Ah oui.
Ce vendredi, c'est un marché qui démarre à 16h30 et qui finit aux alentours de 21h. Voilà, donc venez acheter leur livre et discuter avec eux.
Yes. Est-ce qu'il y a des illustrations ou pas? C'est que du texte? Il y a des dessins?
Il y a des dessins. Chaque classe, ils ont choisi un élève pour faire les dessins. Et ensuite, il y a...
Continue.
Il y a une illustratrice qui a mis en couleur un peu.
Ah oui, oui. Alors effectivement, les dessins des enfants, comme vous pouvez le voir là, on a fait des sélections. Et la graphiste Anne Faure, qui a mis en page le livre, a rehaussé les dessins avec des petits aplats vraiment très pertinents. Il y a des fois, il y a un côté un peu punk et tout.
C'est trop bien. Ça rajoute quelque chose de chouette.
Ouais.
Mais merci beaucoup et bonne chance pour la vente de ces livres. Mais bon, ça part comme des petits pains, apparemment. Bonne chance surtout au refuge pour la suite. J'espère que cet appel finira par être entendu quand même et qu'il y aura moins d'abandon.
Oui, mais on espère aussi. Et puis, moi, je tiens à remercier l'école de Beaumont pour cette action, pour le refuge, pour cette action solidaire. On est ravis d'être associés à cette création.
Et juste pour dire, là, on est déjà à 3000. Euros de dons assurés en ayant déduit les frais de fabrication du livre.
Et ben, bravo les enfants, hein. Vous êtes efficaces. Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Karina.
Alors ce soir, de 18h à 20h, hein, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez sortir. On peut faire une sortie, un petit peu de mouvement dans le studio, tellement nous sommes nombreux. Allez-y. Voilà. Donc, avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, sur les coteaux de Montméran pour découvrir et apprendre à connaître la biodiversité du lieu, les oiseaux, les plantes et les papillons. Vous apprendrez à rentrer vos observations sur la plateforme de l'observation de la biodiversité mise en place par Valence Roman Aglo et la LPO. Rendez-vous à 18h à la mairie de Montméran.
Bravo Agathe pour ces informations, sans être trop déconcentrée. Et des infos de la préfecture aussi. Sachez qu'en ce moment, la préfecture tient à informer tous les habitants du territoire pour lutter efficacement contre le moustique tigre qui est apparu en 2012 dans la région. Et pour le reconnaître, vous le savez sûrement, si vous l'avez croisé, il a des rayures noires et blanches, d'où son nom, le moustique tigre. Et il se développe dans les eaux stagnantes, des coupelles de pots de fleurs, des pneus usagés, des encombrants, des jeux d'enfants, les récupérateurs d'eau de pluie, des terrasses sur plots, des gouttières, etc. Et il faut savoir qu'il lui faut vraiment très peu d'eau pour se développer, pour établir ce qu'on appelle un gîte, et qu'ensuite il vit dans les 150 mètres autour. Donc pour éviter leur propagation, la préfecture vous invite à bien vérifier que vous ayez tout vidé, ces sources d'eau potentielles, vider les coupelles, nettoyer les gouttières, couvrir les réservoirs d'eau, empêcher la stagnation dans les piscines hors d'usage, etc. On dit souvent qu'ils sont porteurs de maladies comme la dengue et le chikungunya, c'est vrai, mais en tout cas, rassurez-vous, il n'y a pas eu de cas dans la Drôme pour le moment. On touche du bois.
Alors, en deuxième invité, nous recevons Ciliane.
Bonjour.
Fiona et Anza, bonjour à vous trois.
Bonjour.
Donc, vous êtes venus un petit peu nous parler d'un atelier qui va avoir lieu ce samedi 11 juin. Et en corrélation avec le festival Dehors qui a lieu en août. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de rappeler qu'est-ce que le festival Dehors?
Ah, mais oui, on peut.
Toujours.
C'est la 12e édition du festival Dehors. Rencontre de spectacles très vivants qui est organisée par l'association Les Vertébrés. Et ce sera du 24 au 28 août à l'école de l'Armalier à Bourg-les-Valences. Et en fait, on organise plusieurs ateliers. Donc là, on va en parler d'un qui a lieu samedi. Mais on organise toute une série d'ateliers, entre autres des ateliers parents-enfants, donc avec un adulte et un enfant, pour Voilà, pour découvrir le festival autrement et permettre des familles qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir des spectacles, de pouvoir aller en voir au moment du festival.
Et cet atelier parents-enfants, ça sera plutôt en août
Alors, tous les ateliers qu'on propose, donc là, je peux...
On va déjà se concentrer sur l'atelier.
Le prochain qui a lieu voilà, ce samedi, donc à la MPT de l'Armélier, c'est un atelier donc parents-enfants autour du cyanotype. Donc, le cyanotype, c'est un procédé photographique ancien qui fonctionne grâce à la lumière. Et on produit des œuvres bleues prusses. Et chaque participant ou participante va repartir avec son petit format chez lui et aussi participer à une œuvre collective qui sera exposée au moment du festival. Et donc, ces ateliers qui auront lieu donc, à la MPT de l'Armaillé, il y en a quatre dans la journée. Donc, je veux dire les créneaux. Donc, ça dure une heure. Il y en a un à 9h30. Un à 11h, un à 14h et un à 15h30. Et donc, c'est pour les parents-enfants à partir de 5 ans. Et il y en aura un deuxième, comme ça, à la médiathèque La Passerelle.
Le même jour ?
Non, le 6 juillet.
Le 6 juillet.
Voilà, pareil, il y en aura 4 dans la journée.
Et donc, le format, c'est uniquement parents-enfants.
Voilà,
si
c'est ça.
Si on est un adulte tout seul, c'est pas pour cette fois.
Il y a d'autres choses pour les adultes, j'y viendrai plus tard. Entre autres, on fait de la scénographie. Donc là, le premier atelier, le scénotype, c'était avec Angelina Lombardo. Et ensuite, la scénographie, c'est avec Lucille Chemarin, qui est aussi notre graphiste et qui fait la scénographie depuis 4 ans qu'on est à l'école de l'Armaillé.
Alors, qu'est-ce que la scénographie pour les personnes qui n'ont pas forcément une idée de...
Alors,
même
c'est
moi,
une question. Donc, en fait, la scénographie, c'est la décoration du festival. Mais ça englobe à la fois le côté esthétique que le côté pratique. Donc, les aménagements aussi pour la circulation des personnes, pour l'information, tout ce qui est...
La signalétique.
Voilà, tout ce qui est la signalétique. Voilà, c'est... Donc nous, on se réapproprie l'école et on en fait un lieu culturel juste en quelques jours. Donc on le transforme et on la rend tout en beauté, cette école de l'Armaillé. Et donc il y a plusieurs manières de participer à la scénographie. Il y a des ateliers parents-enfants qui ont lieu pareil à la MPT de l'Armaillé les 25 juin et 2 juillet. Donc là, c'est sur des samedis et c'est possible de venir... une matinée sur un créneau ou de passer tout un samedi avec nous, ou même de revenir ensuite sur les deux samedis. Et là, on va apprendre à fabriquer des formes en bois qui seront intégrées vraiment à notre scénographie. Donc, on choisit quelle forme on veut fabriquer. On détoure à l'aide d'un vidéoprojecteur. On découpe le bois. Ensuite, il y a la peinture et l'assemblage. Et c'est l'occasion d'approcher des outils qui peuvent paraître inaccessibles. Et tu posais la question de voilà, pourquoi on propose ça. C'est parce que travailler en binôme, ça renforce l'autonomie et voilà, c'est de permettre à ces familles de venir participer à ça et de venir ensuite au festival. Et pour les adultes, on propose un stage de scénographie qui a lieu juste avant le montage du festival. Donc c'est du 18 au 20. C'est ça, du 18 au 20 août, à l'école de l'Armaillé, donc là, pour les adultes.
Parce que du coup, pour revenir sur l'atelier parents-enfants en scénographie, qui aura lieu je reprends un peu les dates, parce qu'il y a eu beaucoup de dates, beaucoup d'infos.
25 juin.
Donc ça, c'est scénographie, c'est le 25 juin, et cyanotype, c'est pour ce week-end-là.
Voilà, c'est samedi, il reste des places, et c'est gratuit.
D'accord, et du coup, pour la scénographie, l'atelier qui va avoir lieu le 25 juin, vous allez vous en servir pour la scène du festival lieu du 24 au 28 août.
C'est ça. Donc les formes qui seront fabriquées avec les parents et les enfants, elles seront intégrées et voilà à l'école.
Parce que du coup, la maison pour tous jouxte l'école.
Exactement.
Et en fait, le festival a lieu dans cette école. Donc vous avez accès à l'école pour pouvoir justement imaginer un peu l'espace.
Voilà.
Et ça, c'est... Voilà. OK, d'accord. Et on n'a pas encore entendu Fiona et Ansa. Bonjour à vous. Si j'ai bien compris, vous êtes en service civique.
C'est ça.
C'est votre premier jour en plus.
C'est mon premier jour pour moi, ouais. Donc, je suis directement à la radio.
Bravo.
C'est super.
Et du coup, j'imagine que vous allez contribuer à vous serez présente par exemple aux ateliers. Vous allez. Quel va être un petit peu votre rôle dans ce festival dehors?
En fait, notre rôle sur le festival dehors, en fait, nous participons à l'organisation festival dehors et nous aidons aussi les artistes pendant le festival et aussi à part cela, nous aidons aussi les bénévoles et tout. Voilà.
OK. Vous aidez à ce qu'ils se sentent bien, vous aidez à quel endroit vous les aidez? vous les accompagnez à quel endroit, par exemple, les artistes?
En fait, nous les accompagnons dans le lieu du festival. Et voilà.
Et toi, Fiona, c'est un petit peu là, mais vous avez le même
oui,
rôle.
Oui, on a un peu le même rôle dans le service civique. Ouais. Donc, c'est vraiment l'organisation avant le festival, pendant, et il y a aussi l'après. Donc, voilà, c'est divers et c'est très intéressant.
Et donc, ce festival, j'ai envie de le rappeler, ça appelle des artistes de la région uniquement au Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est
pour promouvoir tout ce qui se fait sur le territoire et créer justement des lieux de rencontre pour qu'après, ils puissent aussi jouer de part et d'autre.
C'est un court-circuit culturel. Et donc, suite à un appel à participation, les artistes et les compagnies sont sélectionnés. Donc voilà, là, on a choisi 19 compagnies.
D'accord. Et est-ce que c'est comme les années précédentes? C'est au chapeau, avec une participation?
Donc, l'entrée est à prix libre. L'entrée du festival est à prix libre. Donc, on choisit, on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut.
D'accord. Et la particularité de ce festival, c'est que les artistes, toutes les compagnies, contribuent à l'organisation et au fonctionnement du festival. C'est bien ça?
Voilà, donc tout est mutualisé, le temps, l'énergie, l'argent.
Et vous avez besoin de bénévoles aussi. J'entendais parler tout à l'heure d'accompagner les bénévoles. Vous fonctionnez aussi avec pas mal de bénévoles et vous êtes toujours en recherche, j'imagine.
Voilà, tout à fait.
Donc, il y a un petit appel à bénévoles si vous n'avez rien à faire pour la période du 24 au 28 août.
Voilà, ou même juste avant où il y a le montage et juste après le démontage. Et puis, il y a un petit atelier dont je n'avais pas parlé, mais c'est en partenariat avec Radio BLV. Donc,
oui.
Je me fais une joie aussi d'en parler ici. Et donc, il y a un atelier par enfant, encore une fois, l'idée, c'est d'aller voir un spectacle et d'en discuter ensemble. Et voilà, de faire un petit écho de dehors qui sera diffusé sur Radio BLV. Et un atelier adolescent, cette fois-ci que les adolescents sans leurs parents. Et donc là, c'est un peu plus complet, c'est s'initier à la démarche journalistique et il y aura la réalisation d'une émission d'une heure en direct et ce sera diffusé sur Radio BLV le samedi 27 août.
Il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers.
Oui.
Et donc, c'est porté par l'association Les Vertébrés.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce qu'on fait un petit récapitule? Oui.
Peut-être que je peux donner les informations aussi pour s'inscrire.
Oui.
Donc, j'allais dire que c'était gratuit, donc c'est gratuit, mais il faut absolument s'inscrire. Et donc, vous pouvez nous appeler au 06 16 33 44 66 ou bien aller voir sur notre Facebook, on nous trouve assez facilement. Dehors, les rencontres de spectacles très vivants.
Est-ce qu'on a encore une minute ou deux? Parce qu'en fait, c'est passé assez vite. Le cyanotype, j'aurais voulu te poser deux, trois questions.
Oui, bien sûr.
Parce que voilà, moi, ça me parle pas tant que ça, en fait. Je crois que c'est l'ancêtre de la photographie ou pas du tout.
C'est un ancien procédé photographique. Et donc, grâce à la lumière, on va imprimer des formes. Donc, ça peut être des formes végétales. Et là, comme on aime bien cette année parler un peu du thème de l'eau, que c'est la quatrième année qu'on est dans cette école, on se sent un peu comme un poisson dans l'eau. Donc ce sera des petites œuvres bleu prusse qui seront réalisées grâce à la lumière.
Très bien. Tout a été à peu près...
Oui, je pense qu'on peut vous retrouver le détail des ateliers sur vos réseaux sociaux et sur votre site pour en savoir plus.
Et voilà, juste pour rappeler que samedi 11, à la MPT de l'Armaillé, il reste des places. N'hésitez pas.
Inscrivez-vous.
Voilà.
Merci. À vous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et la suite des informations, sachez que depuis quelques mois, la CAF connaît une charge importante de travail due à des difficultés notamment techniques qui sont liées à l'évolution des aides au logement et qui retardent le traitement de vos dossiers si vous êtes allocataire. Le traitement pour le moment des dossiers est de 20 jours en moyenne, donc soyez patients et patientes. Et sachez que pour faire face à ces retards, la CAF a mis en place des heures supplémentaires le samedi pour les salariés volontaires et surtout va fermer ses accueils au public pendant un bon moment, donc du 9 au 21 juin inclus. Donc si pendant cette période vous avez besoin de joindre la CAF, elle vous rappelle son numéro, le 3230 au prix d'un appel local, ou alors allez directement sur le site caf.fr en allant voir votre compte pour suivre la situation de votre dossier.
Bon courage. Patience.
Patience.
Sinon, on part du côté du Conservatoire de Valence-Romont-Aglos, qui forme, accompagne chaque année près de 1600 élèves de tous âges, en musique et en danse. Donc, cette année, les inscriptions pour donc, l'année 2022 et 2023 ont lieu en ligne du 11 juin au 3 juillet. Et pour mieux le découvrir, il vous invite à ses portes ouvertes samedi 11 juin de 10h à 17h à la Maison de la Musique et de la Danse, donc sur Valence, ou à la Cité de la Musique à Romans. Ce sera donc l'occasion de rencontrer les enseignants et les équipes. Ils se feront une joie de vous accueillir. Donc l'école, pour un petit rappel de qui est le conservatoire, il accompagne tout le monde à partir de 5 ans sur des spécialités musicales variées, classique, jazz, musique actuelle et traditionnelle, musique même ancienne. On peut y pratiquer les instruments de l'orchestre classique et également les instruments anciens, du clavecin, du traverso.
Traverso, je découvre, oui, moi aussi. On creusera l'information.
On creusera le luth aussi. Donc, les musiques traditionnelles arméniennes, le chant, le jazz ou encore les pratiques et instruments actuels. Batterie, guitare électrique, Gigi Mao. Et les nouvelles pratiques numériques sont également enseignées. Jing, Vnjing, informatique musicale. Voilà, ça donne envie en tout cas d'aller pointer son nez donc, le samedi 11 juin.
Ce samedi.
Voilà, et il y a aussi donc l'enseignement chorégraphique qui s'articule, ouais, j'arrive bien à articuler, quant à lui, autour de la danse classique et contemporaine.
Voilà, si vous avez envie de faire de la création sonore, allez-y ce samedi. Et sinon, si vous êtes plutôt film, voire scénario, auteur ou autrice, sachez que le Festival Valence Scénario a commencé hier. Alors, c'est un festival qui est entièrement dédié aux scénaristes, compositeurs et compositrices. Et il a pour but de valoriser leur travail, de révéler des talents et puis de vous permettre de découvrir une éducation à l'écriture de l'image pour susciter des vocations. C'est un lieu de réunion entre les spectateurs et spectatrices, les scénaristes et plus de 600 professionnels du secteur. Il y a par exemple des producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices, distributeurs et distributrices, des comédiens, des comédiennes, des agents, des agentes, plein de monde, voilà, des compositeurs et des musiciennes. Chaque année, une quarantaine de créations non produites sont sélectionnées et réparties en 8 catégories pour la sélection officielle du festival qui va récompenser les meilleurs projets. Donc il y a une très grosse programmation. C'est un PDF de 2 pages où c'est écrit en tout petit. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais je vous conseille d'aller voir directement sur le site scénarioaulongcours.com. En gros, il y a des pitchs de scénarios, des soirées donc de pitch, des soirées de projection, des rencontres et plein d'autres événements. Pour terminer cette locale, nous sommes avec le dernier groupe de chaises musicales qui s'est installé, Mylène, Hervé et Jonelle du Culture Café. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bah bien.
Même très bien.
Très bien, ça fait plaisir. Alors le Culture Café, c'est un nouveau lieu qui a ouvert à Perrin, donc c'était au mois de mai, début mai. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous donner une idée de qu'est-ce que ce nouveau lieu sur le territoire ?
Alors, l'idée de base était de monter un café culturel associatif, donc de pouvoir, se rencontrer, discuter, échanger, et deux, amener de la culture dans un milieu rural, du côté de Perrin, dans la Drôme des Collines, où il y en a très peu. Donc voilà.
Et ça ressemble à quoi si on s'imagine sur place ?
Un petit lieu sympa avec des chapiteaux.
Ah !
Voilà. Donc, on ne peut pas nous louper. On est implanté à côté du stade municipal de Perrin. Et il y a un petit chapiteau qui est le bar, petit chapiteau brun. Et puis, une autre structure qui est plutôt oblongue. Voilà, une structure grise qui, elle, peut accueillir des spectacles en son sein, à l'intérieur. Et également une scène extérieure où on peut faire spectacles et concerts dehors aussi.
Il y a de quoi faire. Et ouais. Donc, vous avez commencé par une programmation assez modeste, en n'ouvrant que quelques soirs par semaine au début. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir ? Alors, quels sont vos horaires d'ouverture ?
Tous les vendredis, À partir de 17h jusqu'à minuit. Et on, là, en fait, on est ouvert du 7, enfin, on a été ouvert à partir du 7 mai jusqu'au 28 octobre prochain. Et on est effectivement, comme disait Hervé, un café culturel et associatif tenu par des bénévoles qui ont tous un métier par ailleurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on on peut ouvrir dans ce laps de temps qui mobilise l'énergie de toutes nos équipes, en fait.
Et qu'est-ce qui va se passer après le 28 octobre ?
On démonte les chapiteaux.
On démonte les chapiteaux et on remonte un autre chapiteau.
Voilà.
Voilà.
D'une autre couleur.
Oui, une autre structure.
Du coup, le Culture Café va exister seulement sur la période estivale ?
Alors l'idée, c'est effectivement, de comme on travaille sous chapiteau, que c'est un lieu associatif avec du bénévolat, c'est très compliqué, de travailler en hiver. Parce que le chauffage d'un chapiteau, c'est très très cher. Donc voilà, on est parti sur des ouvertures 6 mois par an.
D'accord.
Le projet a quand même idée de rester 4 ans minimum en place, et donc des ouvertures 6 mois par an.
Et donc comment ça s'est passé jusqu'à présent ? Ça fait un mois à peu près que vous avez ouvert ? Ça ressemble à quoi pour le moment ?
Bah c'est chouette, on est très content d'avoir pu accueillir déjà sur le mois de mai 2 propositions de spectacles. En juin, on en a 3. Donc vendredi prochain, un spectacle qui s'appelle la compagnie La Volubile, avec son spectacle qui est Déboire. C'est du mime, c'est tout public. Les familles peuvent très bien se retrouver, etc. Ensuite, nous avons le vendredi suivant, le 17, un solo performatif en jonglerie, etc. Donc c'est oui, nous on est vraiment sur du spectacle vivant de tous bords, et on fera, comme on est proche de la fête de la musique, le vendredi 24, un concert. Et voilà, il y aura aussi cette soirée là qui sera attendue, je pense.
Et du coup, comment ça se passe ? Ce sont les artistes qui viennent à vous ? Ou pour l'instant, c'est vous qui démarchez ? Parce que vous n'êtes peut-être pas forcément super connu encore.
Alors, on n'est pas encore vraiment connu, mais Milan et moi qui sommes porteurs du projet, en fait, on est du métier. Donc, ça fait une bonne vingtaine d'années, l'un et l'autre, qu'on travaille dans ce métier. Donc, on connaît beaucoup de gens. Voilà, notamment aussi dehors. Grâce au festival Dehors, où on a joué l'an dernier. On programme des gens qui étaient à Dehors l'an dernier. Voilà, c'est quand même quelque chose qui... Voilà, c'est des énergies, des rencontres principalement.
On est assez sollicités, finalement. Beaucoup d'artistes viennent nous voir. Nous, on est donc, comme on vous disait, associatif. Personne n'est payé, mais par contre, ça nous tient à cœur de rémunérer les artistes présents, donc par le biais de la vente de nos boissons, hein, du café, et puis par un chapeau également, à prix libre et conscient. Voilà, on n'a pas de billetterie fixe lors des spectacles.
Voilà, on tient aussi à mettre l'accent sur le fait d'amener de la culture dans un milieu rural, mais de l'amener de façon à ce que ce soit vraiment libre d'accès pour tous. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre des prix d'entrée. On s'imagine une famille, 2 parents, 3 enfants, même si on met un spectacle à 5 euros, c'est déjà une sortie qui a un coût. Si en plus on veut boire un petit coup sur le lieu, tout ça. Donc on préfère vraiment laisser, on passe au chapeau, c'est prix libre et conscient, chacun donne ce qu'il peut donner. Et je trouve que c'est vraiment bien.
Et quand vous dites que vous êtes du métier, c'est quoi vos métiers du coup ? Ça m'intrigue.
Moi, je travaille, je suis administratrice de spectacles vivants, en fait, de compagnies, de projets, depuis une vingtaine d'années. Et Hervé est artiste.
Voilà, je suis artiste de cirque depuis un peu plus de 20 ans maintenant, voilà.
Et vous êtes avec, j'ai oublié ton prénom, service civique.
Qui... Jonelle.
Jonelle. Jonelle, donc tu accompagnes le projet en tant que service civique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis là, pour toute la saison, jusqu'à fin octobre.
Et quel est ton rôle dans ce projet à toi ?
C'est plein de rôles différents. c'est assez polyvalent. Et c'est aussi bien être sur le lieu le vendredi soir, mais pas que, beaucoup en amont et après. Logistique, technique, communication, gérer les bénévoles, les commandes de boissons aussi, par exemple. Ouais. très, très divers.
Ah ouais, couteau suisse.
Voilà.
Est-ce que c'est toi qui t'occupes aussi un petit peu du flyer que j'ai entre les mains?
Non, pas vraiment. De le distribuer, oui, ça en fait partie, on le fait tous, mais sinon c'est plutôt Hervé qui s'était chargé de ça.
C'était surtout aussi pour parler que voilà, la diffusion d'informations, c'est par ce petit flyer. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi d'avoir vos actus?
On a un Facebook. Et le site internet de notre compagnie, donc nous sommes le Cirque Osigno, et sur notre compagnie, sur notre site, il y a une page dédiée aux cultures café, et donc le Facebook, et il y a une adresse mail disponible pour recevoir les infos et échanger.
Super. Est-ce qu'on peut refaire un petit rappel des dates à venir pour les personnes qui n'auraient pas noté les sorties?
Alors, vendredi 10 juin, on a le spectacle Déboire de la compagnie La Volubile. Le vendredi 17 juin, on a deux choses. En fait, Mylène a omis quelque chose. On a d'abord une performance de Valentin Le Chat à 19h. Et ensuite, on a un solo de chansons napolitaines. Donc, gars tout seul avec sa guitare. Je pense que ça va être assez sympa, ce que j'en ai vu en tout cas. Et vendredi 24, la petite équipe, groove poétique et nomade. Voilà. Pour le mois de juin. Après, la programmation est déjà faite jusqu'à fin juillet. Vous pouvez aussi la trouver sur notre Facebook ou sur le site.
C'est noté.
Vous disiez qu'il y avait une buvette et il y a aussi de quoi se restaurer.
Oui, on travaille régulièrement avec des food trucks différents qui viennent, qu'on a rencontrés. Et chaque semaine, ça change. Il y a des repas différents.
Voilà, et au niveau du bar, on essaie de travailler réellement avec des produits locaux. Donc, on travaille avec des brasseurs artisanaux vraiment du coin, des jus de fruits de Perrin, du vin juste à côté aussi. On est vraiment dans cette démarche-là.
Et on a même brassé notre propre bière.
Waouh!
Ouais, avec le brasseur qui est à Saint-Barthélemy de Vals. Voilà,
la brasserie du Loup Blanc.
Voilà, si vous venez boire une bière chez nous, ce sera la bière que Hervé et Richard du Loup Blanc ont brassée ensemble et qu'on propose exceptionnellement pour le Culture Café.
Donc si vous êtes curieux ou curieuse, rendez-vous ce vendredi soir, vous cherchez le chapiteau à Perrin.
Au stade municipal.
Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous voir.
Merci.
Merci.
Malheureusement, la fin de cette locale très bien remplie. Merci beaucoup, Agathe, pour la co-animation.
Oui, tu vois, finalement, au début, j'étais pas en forme, et ça y est, ça m'a redonné un petit coup de...
Ah,
ouais.
Plaisir.
Ce qui est vivant, c'est...
Ça va mieux.
Ouais, carrément, ça y est.
Merci aussi à Clément, qui a la technique silencieuse, mais toujours, toujours là, et qui a ramené plein de micros. Grâce à lui, on a pu tous et toutes vous recevoir. Restez sur Radio BAV, parce que d'ici 2 minutes seulement, à 13h, vous pourrez écouter la chouette émission Compost Cosmique, qui est un savant mélange de musique et de littérature. Cette fois-ci, ce sera autour de Virginia Woolf. À 17h, rediffusion de l'émission de 11h avec Sylvie, donc l'invité de 11h et quelques, avec Laura Ben-Ayoun. 18h, rediffusion de cette même locale, si jamais vous avez envie de vous réécouter ou de la faire écouter à d'autres personnes. À 19h, ce sera Ars Materia, notre portrait mensuel de plasticien ou de plasticienne, cette fois-ci, avec main d'œuvre. Et pour finir la journée en beauté, 20h15, Chansomania, l'émission de chansons francophones avec La Féline. On se retrouve, nous, demain, pour une nouvelle locale. Agathe sera là.
Et oui,
au rendez-vous avec Mélodie cette fois-ci. Et on vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.